Lis des livres, votre rendez-vous littéraire vous est présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-de-Rouergue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lis des livres, votre émission littéraire sur CFM le samedi à 18h et en rediffusion le mardi à 12h35. Vous pouvez nous écouter directement sur le site de CFM, à l'émission Lis des livres ou en podcast quand vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous n'avons pas pu choisir avec Monique. Bonjour Monique.
Bonjour Fred.
Entre deux livres qui nous ont paru intéressants à mettre en avant, il s'agit de La lecture de l'été de Barack Obama, pas moins que ça, et d'un polar qui soulève la poussière des steppes patagoniennes. Joël, de la librairie La Folle Avoine, va nous expliquer pourquoi Indiana de George Sand fait partie de sa bibliothèque. Bonjour Joël.
Bonjour.
Bibliothèque qu'il nous ouvre dans ses chroniques hebdomadaires. Pour commencer, je vais laisser la parole à Monique avec le livre de Ta-Nehisi Coates, Une colère noire, Lettre à mon fils, publié aux éditions Autrement, traduit de l'anglais par Thomas Chaumont. Un livre qui a été mis en lumière par Toni Morrison, prix Nobel de littérature 1993. Elle l'associe à un nouveau James Baldwin, figure du mouvement pour les droits civiques. Il a obtenu ce livre, le National Book Award, dans la catégorie non-fiction. Et c'est un événement aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Donc, Ta-Nehisi Coates est né en 75 à Baltimore. Il est écrivain, mais aussi journaliste aux affaires internationales pour The Atlantic. Il s'intéresse particulièrement aux affaires raciales. Et c'est sans doute pas pour rien, compte tenu de son passé. Très tôt, il est confronté à la violence, à l'insécurité physique, aux injustices faites à son corps noir, dans la rue comme à l'école, dont il dit d'ailleurs que ce sont les deux bras d'un même monstre. Il finit par trouver une voie pour entrer à l'université Howard à Washington, qu'il appelle la Mecque, et qui est le carrefour de la diaspora noire. Donc dans ce livre, qui n'est ni un roman ni un essai, il s'adresse à son fils âgé de 15 ans. Et je vous dis tout de suite, pour situer les choses, je vous cite cette phrase. Il dit à son fils, « N'oublie jamais que nous avons été esclaves dans ce pays plus longtemps que nous n'avons été libres. N'oublie jamais que pendant 250 ans, des générations entières suivies par d'autres générations n'ont rien connu d'autre que les chaînes. » Et donc, il nous explique comment, sur cette longue et douloureuse histoire de l'esclavage, s'est fondée la société américaine. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Ils ont transformé nos corps pour en faire du sucre, du tabac, du coton et de l'or. Donc effectivement, les fondements de la société américaine sont issus de l'esclavage. Et l'image du corps, le corps des Noirs, c'est quelque chose qui est resté profondément marqué et qui continue au nom du rêve américain, en dépit d'un président issu des minorités noires. Donc la question qu'il pose à son fils, c'est comment vivre encore aujourd'hui aux États-Unis avec un corps noir ? Et sa réflexion porte là-dessus et sur ce qu'il nomme la fabrication raciste, ce qui sépare les blancs et les noirs, qui oppose le rêve américain, confortable, avec ses belles pelouses, ses allées privées, et de l'autre côté, la réalité de l'injustice, l'insécurité physique et la peur permanente dans laquelle il a toujours vécu et qui reste le quotidien des noirs aux États-Unis. Et lui, pour lui, c'était la terreur viscérale de perdre son corps, d'être dépossédé de son corps. Donc, il relate des faits tout à fait réels qu'il a connus, la violence de la rue, les vexations, le racisme au quotidien, quoi, hein, les arrestations arbitraires, les meurtres gratuits qui restent impunis. Mais l'intérêt de ce livre, au-delà de ça, qui est vraiment très très intéressant,
c'est d'élargir le débat, en fait.
Exactement, il élargit le débat à d'autres formes de ségrégation et de racisme, en particulier envers les homosexuels et les minorités.
Il dit que le racisme n'est pas un racisme noir, en fait.
Voilà.
C'est les individus qui sont des parias sociaux, qui sont sujets au racisme.
Sujets au racisme, voilà. Il dit toujours à son fils, il lui dit, n'oublie pas que tu auras toujours le vent de face et les chiens sur les talons. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont très très fortes dans ce livre-là. Et son fils s'appelle Samori, un hommage à Samori Touré, qui était un héros de la résistance africaine à l'expansion de la colonisation française. Et voilà. Et puis, Taney Easycoat, ça a un peu fui les États-Unis là parce que ça a été en raz-de-marée ce livre-là. Donc il explique dans un entretien accordé à Télérama qu'il s'est accordé une petite parenthèse et donc là il vit en France, il est à Paris pour un an. Et dans ce qu'il dit, quelque chose m'a beaucoup frappé. Il dit à Paris, je suis américain avant d'être noir. Et je trouve que ça résume assez bien son propos dans cette lettre à mon fils.
Voilà, bon, c'est un livre à lire absolument ça ouvre les yeux sur ce problème du racisme que nous on vit peut-être parfois très cérébralement et pas viscéralement. Et je crois qu'il lui redonne une dimension effectivement corporelle et
voilà. Pour lui, c'est vraiment ça, c'est ouais. La peur, pardon, d'être dépossédé de son.
Et c'est très facile d'accès. Faut pas croire que c'est pas philosophique.
Ah non,
c'est une lettre à
tout.
Son fils de 15 ans et vraiment c'est intéressant.
C'est voilà. Vraiment une lecture à faire.
Donc je vais enchaîner sur un livre qui n'a pas vraiment beaucoup de rapport avec celui-là, mais qui m'a semblé intéressant d'aborder, parce que c'est un polar, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé. C'est Il reste la poussière de Sandrine Collette aux éditions de Noël dans la collection Sueur froide. C'est paru en janvier 2015. C'est une écriture somptueuse qui réveille les grands espaces patagoniens argentins. Donc un dépaysement certain. Sandrine Collette est née, elle, en 1970. Elle possède un doctorat de philosophie, un master en sciences politiques. Et j'ai entendu quelque part qu'elle s'intéressait aussi à la restauration de vieilles maisons. Donc une femme à la panoplie assez variée. D'emblée, son premier roman, qui était Nœud d'acier, a obtenu le Grand Prix de littérature policière. Et elle a ensuite publié Un vent de cendre, puis Six fourmis blanches, pour ceux qui la connaissent déjà. L'histoire se passe dans une estancia qui survit difficilement à la concurrence des grands élevages intensifs entre bovins et moutons. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on parle de la culture intensive et de ses défauts. C'est une vie de cow-boy que mène cette famille composée d'une mère ravagée par l'alcool et l'amertume à cause de sa vie extrêmement dure. Elle mène la barque avec ses quatre fils enfermés dans un silence sans affect depuis la disparition du père. Disparition quelque peu mystérieuse. Et la naissance du petit dernier qui, malheureusement pour lui, est arrivée 8 mois après le décès du père. Bon, enfin bon. Les aînés sont des jumeaux qui dominent physiquement la fratrie, mais asservis à cette mère dure à la tâche. Stéban, celui du milieu, est atteint d'une espèce de sidération qui font dire aux autres qu'il est débile. Et Raphaël est un véritable souffre-douleur. Tout va bien, le tableau est magnifique. On sent la fatigue ployer les corps, l'alcool embrume les esprits, quand les animaux restent dignes dans une steppe poussiéreuse et aride, où seuls parlent le vent et les nuages. Certaines pages font indéniablement penser tandis que j'agonise de Faulkner. Même j'ai pensé des fois à Cormac McCarthy en lisant les descriptions de la steppe. Il y a un remarquable prologue, comme on avait pu l'observer dans d'autres polars qu'on a lus cette année, là, dans Obia de Colin Niel et Le Détroit du Loup de Olivier Truc. Alors on sort très très peu de ce huis clos familial, sauf pour aller faire quelques courses en ville. La violence est partout, dans le travail, dans les rapports mère-fils, dans les rapports de la fratrie. Chaque personnage parle successivement dans les chapitres. Alors il y a Moreau, le frère aîné, les deux frères jumeaux, Moreau et Joachim, la mère, etc. Jusqu'au dénouement qui laisse sur une note d'espoir après autant de noirceur, je vous rassure, hein, il y a un petit peu d'espoir quand même. Et je ne vous dirai pas le fin fond de l'histoire, mais finalement, l'intrigue est très minimaliste. Et ce qui en fait toute la richesse, vraiment, c'est l'ampleur. L'ampleur des paysages, l'ampleur de leur vie, de la dureté des choses. Mais c'est pas forcément l'intrigue qui est au sens strict qu'on peut trouver dans des polars. Bon, et donc, ce que je disais, bon, il y a quand même une note d'espoir à la fin, après tant de noirceur sur les cendres d'une estancia qui est littéralement démontée pièce par pièce tout au long du livre. Et c'est pas uniquement de manière abstraite, hein. C'est vraiment, il la démonte, parce qu'ils ont une bonne raison de le faire.
D'où le titre, Il reste la poussière.
Bon, comme on n'a plus beaucoup de temps, puis qu'il faut que Joël puisse nous parler de George Sand, on va écouter Redemption Song de Bob Marley, qui dit « Libérez-vous de cet esclavage mental, personne, si ce n'est nous, ne peut libérer notre esprit, nos esprits. »
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs.
On était resté la semaine dernière sur George Sand, romancière, et en particulier le roman Indiana. Indiana, c'est le premier roman de George Sand, le premier roman qu'elle signe, George Sand, parce qu'elle en avait publié un ou deux avec Jules Sandeau. Mais Jules Sandeau a disparu, elle n'a gardé que le début de la moitié de sa moitié, donc Sand. Et Indiana, c'est déjà un roman où il y a tout George Sand. C'est-à-dire qu'on a déjà le rapport à Flaubert, le rapport à Balzac, le rapport à Château d'Arlos de Laclos. Toute la société est là, qui nous saute au visage. Et elle part, elle commence à La Réunion, elle va finir à l'île de La Réunion, dans les deux cas. C'est-à-dire les deux héroïnes, Noon et Indiana, sont nées toutes les deux à La Réunion. Et elle va nous traiter la société française dans un petit manoir de campagne avec des ambitieux. C'est pour ça que je parle. Il y a aussi Balzac, parce qu'il y a ce Raymond qui est un ambitieux qui va essayer, qui va d'ailleurs se servir, utiliser le mariage, les institutions pour progresser dans la société, dans la politique. Et puis il y a toute cette politique à laquelle Indiana ne veut pas se mêler. Alors on a dit, George Sand, c'est Indiana, ou Indiana, c'est George Sand. Bon, il y a un peu de ça, c'est-à-dire par rapport au père que George Sand a perdu très tôt, elle avait 4 ans. Indiana, c'est ce qui lui est arrivé et qui se trouve dans cette société un peu à l'abandon, surtout quand son mari va mourir. Elle se retrouve seule à La Réunion et elle décide d'aller rejoindre son amour, Raymond, à Paris. Et alors le Raymond l'attend pas du tout. C'est-à-dire quand elle arrive à Paris, Raymond est marié et à un autre poste. Heureusement, elle retrouve son Paul, comme Paul et Virginie vont revenir tous les deux ensemble à La Réunion, et c'est un happy end. Mais c'est tellement multiple, une description tellement juste de tous ces sentiments, ces relations entre les clans politiques à certains moments. Et ce qui est intéressant dans sa façon d'écrire ce premier roman, c'est sa façon qu'elle a de se détacher, de, comment on dirait maintenant, faire un pas de côté et dire je. Et pour la première fois, enfin, elle parle au masculin, c'est-à-dire le narrateur est masculin. Et donc, elle se permet, pendant quelques pages, de donner son point de vue de George Sand, de femme de 1930, puisque c'est à ce moment-là qu'est écrit le roman, sur la situation. Et après, elle le met dans la bouche d'un de ses personnages. Donc ça, c'est le côté roman. Bon, il y a aussi évidemment La Mare au Diable, il y a aussi La Petite Fadette. Quand vous avez parlé tout à l'heure de jumeaux dans La Petite Fadette, c'est l'histoire de deux Bessons, on les appelle Bessons dans le Berry, hein, des jumeaux, donc qu'elle va mettre en œuvre. Et dans La Mare au Diable, il y a un élément dont je voulais parler, c'est le rapport à l'art. C'est-à-dire, La Mare au Diable débute par une description de la danse macabre de Einstein, et c'est le laboureur. Donc le héros est un laboureur. Bon, ça, je vous laisse la petite fadette, tout le monde connaît. En revanche, ce qu'on connaît moins, qui est pas du tout lu, c'est Consuelo, qui est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre, Consuelo, qui a été valorisé par Flaubert, qui a été valorisé par Dostoïevski. Tous, ils ont adoré ce bouquin, qui est un roman total. Un roman total qu'elle a fourni en feuilleton toutes les semaines à la revue indépendante de son ami Pierre Leroux. Il fallait qu'elle livre pour que la revue continue à paraître et gagne un petit peu de lecteurs. Et donc, dans ce roman, elle va prendre partout, elle va prendre à Goethe, elle va prendre à Leroux, évidemment, là, sans se gêner, mais c'est un roman romantique, c'est un roman gothique, parce qu'on va aller déjà dans cette époque-là, c'est 1844, on connaît déjà le moine de Lévis. Oui. Donc il y a de l'Artaud là-dedans, il y a du Rimbaud, il y a du Nerval, elle prend un Nerval, mais elle nous donne ça de façon tellement à sa sauce, à elle. Et puis, ce que j'ai pas parlé, c'est évidemment le rôle de la femme, c'est Consuelo, la gitane. Là aussi, on pense à Esmeralda et Consuelo qui va nous faire découvrir la musique. Consuelo, c'est un roman aussi sur la musique à travers toutes les cours d'Europe, tous les capitales. Ça démarre à Venise, on va se trouver à Vienne. C'est vraiment ce qu'on appelait un roman total. Et puis, il y a les théories de Leroux, hein, le communisme. Elle s'est fait traiter de communiste. Bon, j'ai pas tout à fait le temps de parler de la George Sand. C'est dommage. Je voulais parler de la George Sand journaliste parce que en 1848, en février 48, elle accourt à Paris et elle se met au service de la République, de la Deuxième République, de son ami Le Drurolin, et elle devient chef de la communication, on dirait maintenant, en fait, rédacteur en chef de la lettre, du bulletin de la République. Le bulletin de la République où elle publie évidemment ses idées et elle va se compromettre d'une certaine façon, ça va se retourner contre elle. Et elle fait passer, pratiquement toutes les semaines, donc les idées de républicaines, toutes ces idées sociales, par ce bulletin qui est un bulletin quasiment officiel de la République. C'est Georges Sand qui le rédige. Et comme ça lui suffit pas, elle crée la cause du peuple. La cause du peuple, c'est son journal, il est à elle, et elle va écrire dedans. Seulement, il y aura que 3 numéros qui va sortir, et elle sera obligée de elle va partir, quoi. Elle va partir se mettre à la campagne. Mais elle a une approche du journalisme qui est très, très forte, parce que elle va publier pratiquement presque toute son œuvre dans les journaux, sous la forme de feuilletons ou sous la forme de nouvelles. Son contrat avec la revue du bout du monde là lui permettra d'envoyer de temps en temps des textes, en particulier des récits de voyage et les compagnons du Tour de France dont j'ai parlé rapidement la semaine dernière. Pour finir, une petite anecdote avec Agricole Perdiguier qui l'a initié aux compagnons du Tour de France. Elle lui a offert, pour qu'il lui donne d'autres idées, un Tour de France, elle lui a offert gratuit, donc, en diligence. Et Agricole a fait le Tour de France en diligence, en lui envoyant, ils ont correspondu jusqu'à sa mort d'ailleurs, en lui envoyant les lettres de ce Tour de France à chaque étape. Voilà. Pour finir, peut-être une phrase, la phrase
non,
du jour.
C'est trop on va tard. Écouter d'abord la musique et puis.
Alors
on...
la musique, oui, la musique, c'est les Canuts, parce que c'est en fait c'est la révolte des Canuts qui a d'une certaine façon initié Georges Sand à la révolution qu'elle a menée jusqu'au bout, hein. Et donc j'ai voulu revenir aux Canuts.
Chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Pour goûter gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grande la terre, et nous, pauvres canuts, sans draps, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus.
Aujourd'hui, nous vous avons parlé d'une colère noire de Ta-Nehisi Coates, aux éditions Autrement, et de... mon livre.
Colette.
Il reste de la poussière. Il reste de la poussière aux éditions de Noël, à la collection De Sang-Froid. Et Joël nous a parlé de George Sand, ses romans, Indiana, Consuelo, et puis il nous a gardé une petite citation pour la sortie.
Un livre a toujours été pour moi un ami, un consolateur éloquent et calme. George Sand.
Merci Joël, merci à tous. Mathias était à la technique et à bientôt.
L'idée livre, votre rendez-vous littéraire, vous a été présenté par la librairie La Folle Avoine à Villefranche-d'Orouergue.